commencer Bezrat Hashem aujourd'hui notre premier cours sur le chapitre 40. Mais je pense que pour comprendre comme il faut le chapitre 40, il faut faire un petit résumé en quelques minutes des chapitres 38, 39, d'accord, pour expliquer dans quelle situation, dans quel contexte arrive le chapitre 40. Rappelons-nous, dans les chapitres 35, 36 et 37 du Tanya, nous avons expliqué l'importance de l'action. On a fait plusieurs cours, dizaines de cours, peut-être même un peu plus, dans lesquels on a complètement décortiqué l'importance de l'action. On a expliqué que ce qui compte dans ce monde, c'est d'abord et avant tout l'action, le fait qu'on agisse. Cependant, dans le chapitre 38, on a eu un certain retournement de situation. On a dit, il est vrai que lorsqu'une personne avance dans la Torah, on lui dit, écoute, ce qui compte, c'est l'action. Tu ne poses pas de question, la kavana, pas la kavana, ce qui compte, c'est l'action. Mais ça, c'est au début. Mais après, vient une certaine phase dans laquelle il faut commencer à se poser la question, est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on fait? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce qu'on a réellement la crainte de Dieu? Est-ce qu'on y met de la kavana? Est-ce qu'on y met du tien? Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de le faire, si on ne l'a pas. Mais ça veut dire que on ne peut pas se suffire d'un judaïsme qui est seulement lié à l'action. Il faut mettre également de la kavana dans notre judaïsme. Alors, pour illustrer ça, dans le chapitre 38, on nous a amené une phrase qui dit la chose suivante, qui dit que tfila belo kavana, ke gouf belo neshama. Une prière sans kavana est comme un corps sans âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps sans âme est un corps quand même. C'est un corps, mais il n'a pas d'âme, mais c'est un corps quand même. C'est-à-dire, de la même façon, un juif qui fait une tefila, une prière, mais qui n'y met pas sa kavana, qui n'y met pas son intention, on lui dit, ta tefila est considérée comme un corps qui est un corps. C'est déjà une existence, un corps. Mais c'est un corps inerte. Un corps qui n'a pas de vie. D'ailleurs, je vais faire un rapport avec le Ayom Yom de ce matin. Ce matin, on a expliqué dans le Ayom Yom que dans le service de Dieu basé sur la chassidoute, on retrouve toutes les formes de la vie humaine. Et notamment, une des formes de la vie humaine, c'est la mort. Comment on retrouve la mort spirituellement? Spirituellement, la mort, ça représente celui qui va servir Dieu que par son intellect. Et on sait que chez l'homme, il n'y a pas de plus froid que l'intellect. Il y a des gens comme ça qui vont tout faire pour éteindre leurs sentiments, pour avoir une relation avec Dieu qui est purement intellectuelle. Donc une relation morte, entre guillemets. Vous allez me dire, c'est pas mal, il fait la Torah, il fait les mitzvot, c'est déjà bien, il y en a que même ça, ils font pas. Oui, bien sûr, ça c'est la première phase. Mais la deuxième phase, il faut réaliser qu'un judaïsme dans lequel on ne met pas de la chaleur, c'est un judaïsme qui est mort. Et même si c'est un judaïsme qui est intellectuel et qui est poussé, mais si on n'y met pas de la chayout, de la vitalité, c'est un judaïsme mort. Et de la même façon que on a ce qu'on appelle la résurrection des morts, alors spirituellement, c'est quoi la résurrection des morts? Ben, c'est lorsqu'on étudie une idée qui était froide, et qu'on arrive à y réfléchir au point qu'on la vit et au point qu'on l'applique dans la vie de tous les jours. Là, on peut littéralement parler de résurrection des morts. Ça, c'est un exemple concret pour montrer que, voilà, on aurait pu dire ce qui compte, c'est que tu as fait la mitzvah, après les moyens, on n'en a rien à faire. On ne dit pas du tout. Une prière sans kavana est comme un corps sans neshama. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement se poser la question sur le résultat, il faut aussi se poser la question comment ça a été fait. Il y a un proverbe en français qui dit la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez de ce proverbe?
Mais aussi la forme. C'est-à-dire de quelle manière on y
va. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui va dire, écoute, ce qui compte, c'est d'y arriver à ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moralité.
C'est pas exactement ça.
Si, la fin justifie les moyens,
On ne parle pas de moyens interdits. Des fois, des moyens qui n'étaient pas forcément les moyens imaginés par le Créateur. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils disent, écoute, qu'est-ce que ça te dérange? La fin justifie les moyens.
Comment avoir une bonne kavana?
Eh bien justement, ce qu'on a expliqué. On a expliqué que la kavana, ça on a expliqué dans plusieurs cours précédents, donc je peux pas résumer en deux mots. Mais voilà ce qu'on a expliqué. On a expliqué l'importance, d'accord? L'importance de la kavana. Alors juste, je voudrais juste terminer avec ça pour le résumer, après on va aller dans les mots, pour expliquer un peu plus l'importance de la kavana. On a expliqué que tant qu'on n'a pas la kavana, la Torah qu'on étudie et les mitzvot qu'on accomplit restent suspendues, restent bloquées en bas, elles ne montent pas. Ça ne veut pas dire qu'on est puni, ça ne veut pas dire qu'on ira en enfer, j'ai pas dit ça, mais ça veut dire qu'elles sont en stand-by. Elles sont, voilà, tu dis, tu peux pas décoller. Pourquoi? Parce que la seule chose qui fait décoller une prière, la seule chose qui fait décoller une mitzvah, c'est l'amour et la crainte, ça veut dire les sentiments qu'on met dans cette mitzvah, c'est la seule chose qui fait décoller cette mitzvah. Bon. Maintenant, voilà. On va parler d'un cas, on va parler d'un cas où une personne, il a étudié la Torah, ou bien il a fait une mitzvah, mais il ne l'a pas fait pour Dieu. Il l'a fait comme ça. Vous vous rappelez, c'est le cas qu'on a vu la semaine, enfin, voilà. Exactement. Avant, on a eu deux cours sur Shavuot. Donc avant, on avait parlé de ce cas. Le cas d'une personne qui a étudié la Torah, ou qui a fait une mitzvah, mais qui ne l'a pas fait pour Dieu. Pourquoi il l'a fait? Alors, il y a deux options. Première option, c'est il l'a fait par un intérêt, un autre intérêt. Bon, ça c'est quand même négatif. Mais il y a un autre cas, c'est qu'il l'a fait par défaut, sans vraiment réfléchir à ce qu'il faisait. Merci. On a plein d'exemples. Comme l'exemple qu'on a donné, la semaine dernière, enfin, il y a trois semaines. Voilà, ce matin, on a mis les tefilines. À quoi je pensais quand j'ai mis les tefilines? Ce que j'ai pensé, que j'ai en train de soumettre mon cœur, mon esprit à Dieu, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non.
C'est un ordre.
D'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. Non, voilà. Si vous me sortez le mot c'est un ordre, ça veut dire que vous vous arrêtez uniquement sur l'aspect technique de la mitzvah, l'aspect action de la mitzvah. Ça, c'est bien. Mais après, il faut aller plus loin.
Faire plaisir à...
Alors, voilà. Alors, et maintenant, imaginons, voilà. Imaginons, par exemple, ça fait 5 mois que je mets les tefilines et j'ai pas pensé une seule fois à Dieu quand je mets les tefilines. Pas que j'ai pensé à des bêtises. Mais bon, à 8h du matin, j'ai mis comme ça. Bon, d'accord, par automatisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces 5 mois de tefilines?
Ça monte pas.
Alors, il reste comment?
Si le monsieur... Attends. Il y a un problème, ça monte pas. Si le monsieur y part, avec les mitzvot qui sont pas montées, qu'est-ce qui se passe avec...
Eh ben, c'est une bonne question. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce qui est resté bloqué en bas? Tu as raison. Il a du crédit, mais un crédit qu'il peut pas utiliser.
Voilà. Alors, c'est ça.
C'est un petit peu comme si vous avez, comme si quelqu'un, il a de l'argent dans son compte, mais il peut pas tirer.
Voilà, c'est bloqué.
C'est bloqué. Il y a un bloqué. Maintenant, des fois, ça peut être pour une raison technique. Des fois, ça peut être, par exemple, parce qu'il y a eu un imbécile qui a fait une procédure pour un truc, alors qu'en vérité, il y a de l'argent et tout ce qu'il faut. Hein? Ça peut être un mauvais code, ça peut être, non, mais des fois, une erreur d'un banquier ou je ne sais quoi. Ou parce que il croit, exactement.
Il va se débrouiller pour la faire marcher. Il peut déjà.
qui va se débrouiller?
Non, mais si jamais il peut pas sortir l'argent. Si c'est l'argent, il va tout faire pour.
Mais tu peux pas, sortir. C'est bloqué.
Ouais, comme tu veux. Mendy, c'est dangereux aussi parce qu'on peut se dire, ah ben ce matin, j'ai pas la cabana, je suis pas.
Non, attendez. C'est pour ça qu'on a eu le chapitre 30. C'est pour ça qu'on a eu le chapitre 35, 36, 37, dans lequel on a expliqué que ce qui compte, c'est le résultat. Ça, c'est clair. Là, on passe à une autre gamme.
C'est ça veut dire. Parce que si ce qui compte, c'est le résultat, c'est-à-dire l'action, non, c'est... ça veut dire quoi qu'il arrive, quand je m'en vais de ce monde, je pars avec mes mitzvot.
Ce qui compte, au final, c'est l'action. Mais là, ça veut dire que lorsque je vais arriver en haut, la question que Dieu va me poser, c'est d'abord, est-ce que tu as fait? Pas c'est comment
ça.
Tu as fait.
Ça va,
c'est ça, c'est la question. Et ça, je vais répondre oui, je vais répondre, j'ai mes tefilines tous les jours. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, celui qui est inquiet pour savoir comment ça se passe en haut, est-ce qu'il ira en enfer ou pas, vous inquiétez pas, t'as mes tefilines, même sans kavana, c'est bon. On n'est pas là pour maintenant voir ce que juridiquement on va s'en sortir. Ça, c'est déjà classé. On est en train de parler maintenant. J'ai envie de faire les choses bien. Vous comprenez? Comme rappelez-vous l'exemple qu'on a amené, ça fait un mois. Je vais acheter un bouquet de fleurs pour ma femme. Je peux lui acheter machinalement. D'accord? Mais bon, et un bouquet de fleurs qu'acheté machinalement, bah, c'est un don qui est machinal. Maintenant, moi, j'aimerais l'offrir avec kavana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il est fait sans kavana? Alors quoi, c'est mort, c'est fini, ça sert à rien, c'est une perte de temps. La Torah te dit non, ce que t'as fait, c'est très bien. Maintenant, comment faire pour le faire monter vers Akadosh Baruch Hu? Alors, on va lire ensemble. On va lire ensemble ce qu'il dit ici. Chapitre 40. Ar, cependant. Kolzman. Là, vous allez voir aujourd'hui, on va faire appel à la Kabbalah, Rabbi Chaim Vital et tout. Bon, ça va décoller aujourd'hui. Ar, cependant. Kolzman, shelo, chazar, velamat, davar, zelishma. Tant qu'il n'a pas étudié de nouveau cette chose-là pour Dieu. Par exemple, imaginez par exemple que j'ai fait une étude et que je l'ai pas faite pour Dieu, je l'ai faite comme ça. Hein, comme ça. D'accord? Tant que je n'ai pas refait la même étude en ayant la bonne kavana, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Eh ben, malheureusement, en limudo ole, son étude ne monte pas, a filu beyut sfirot ameirot beola maïtira veasia. Même dans les 10 sfirot qui illuminent les mondes inférieurs de yitira et asia. Je veux pas vous rentrer dans des détails techniques, mais ça veut dire que dans les sphères célestes, il y a plusieurs niveaux. On aurait pu dire, bon, d'accord, ça monte pas en haut, mais en bas, il y a quand même une illumination et quelque chose. Il te dit, pas du tout. Une mitzvah qui a été accomplie sans kavana ne monte pas du tout. Pourquoi? Il explique. Parce que, qui a sfirot, en prinat elokut. Parce que c'est quoi les sphirot? Les sphirot, c'est une dimension, comme il dit ici, du divin. Ou bahen, mitlabesh, ou mitiachet, or en sof, or mamash. Dans les sphirot, vous avez la lumière infinie de Dieu qui est habillé en eux. Ça veut dire, on te dit, ne crois pas que on peut jouer avec Dieu. Tu dis, bon, écoute, j'ai pas pris le niveau 1, mais tu me donnes le niveau 2, le niveau 3. Ça n'existe pas. Soit ça monte, soit ça monte pas. Soit tu mérites, tu as fait les choses comme il faut avec la Kavana, ça monte. Soit ça monte pas. Alors, comment on fait pour le faire monter? Ça, on va en parler. Mais, en tout cas, on peut pas discuter avec ça.
On parle pila, on parle.
Deux secondes, on va juste avancer quelques lignes. Obelot, rilou, ochimou, lo yachla, les salka, ou le mikam, kadam hachem. Sans amour, sans crainte et sans amour de Dieu, l'étude de la Torah ne peut pas s'élever et ne peut pas monter devant Hachem. Comme on l'a expliqué longuement. Kmoshikatou betikunim, comme c'est expliqué dans les tikunim, ça veut dire dans le Zohar. Rag seulement, limoud olé les chalot ou madorim shem chetsuniu taolamot. En fait, ce qui se passe, c'est que l'étude qu'il a étudiée, qui est quand même une étude de Torah, et c'est une mitzvah quand même. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait pour Dieu, il n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'il faisait, mais c'est quand même une mitzvah. Je veux dire, il a fait une mitzvah, il a étudié la Torah. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette étude? Elles vont monter. Alors, il y a les termes de Kabbalah qu'on va développer tout de suite, hein. Ne soyez pas étonnés par ces termes de Kabbalah. Donc, ça va s'élever dans les palais et dans les demeures qui sont l'aspect extérieur des mondes chez M. Chitzeniu Taolamot, chez Ba'em Omdim Amalachim, dans lesquels se trouvent les malachim, dans lesquels se trouvent les anges. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il raconte?
Mais il y a quand même une différence de nuance entre Kavana d'un côté et amour et crainte de l'autre.
Oui, non, mais la Kavana qu'on parle ici, c'est l'amour et la crainte. Pardon? Parce que la Kavana dont on parle ici, c'est l'amour et la crainte.
Ah, parce que la Kavana, voilà, il faut savoir de ce qu'on appelle, voilà.
Bah, Kavana, ça veut dire être dans ce que je fais. Si je suis dans ce que je fais, c'est forcément j'ai une relation avec la chose. Et la relation que j'ai avec une chose, c'est où je l'aime ou je l'aime pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut
que... ce soir, là. Par exemple, là, on est...
Je vais vous donner un exemple. Attendez, je vais vous donner un exemple concret. Non, parce que pour répondre à cette question, regardez. Qui n'aime pas les olives ici?
Tout le monde.
Quelqu'un aime les olives?
Ouais.
D'accord. Qui n'aime pas les olives? Quelqu'un n'aime pas les olives ici?
Non, personne.
Bon. Qui n'aime pas les chips?
Personne.
Tout le monde aime les chips?
Bon. Ah, bon, j'aime pas.
Alors, imaginons, monsieur Kassavi, que vous n'aimez pas les olives. Peut-être, c'est possible. D'accord. Bon. Imaginons. D'accord? Imaginez, ils sont noirs, donc vous les aimez pas parce que c'est vendredi soir. C'est bon, voilà. C'est ça, vendredi soir, non?
Vendredi soir, on mange pas les
olives. Très bien, voilà, bon, on a trouvé, d'accord? Donc imaginons que vous n'aimez pas les olives. Alors voilà, là j'ai trois relations possibles avec l'olive. Première relation possible, c'est je la mange machinalement. Je me pose même pas la question est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Elle est dans un sandwich, je la mange comme ça, j'ai pas calculé. Elle était dans une pizza ou dans un sandwich, je mangeais comme ça, ou dans une salade, je mangeais comme ça. Ça, j'ai pas eu de kavana avec l'olive. C'est-à-dire, je l'ai même pas parlé à l'olive. Je l'ai même pas dit je t'aime pas. Il y a même pas de parole. J'ai même pas parlé. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça. Là, je respire, par exemple. Je vous pose la question, quel air je respire? D'accord? Est-ce qu'on se pose la question, quelle qualité de chute vous mangez? On mange et tout. On pose pas de question. Après, vous avez un autre niveau. Un autre niveau dans lequel vous avez une relation qui se crée avec l'olive. Et là, on peut avoir une relation positive ou négative. Une relation, j'aime l'olive, je vais la manger. Ou une relation négative, l'olive me dégoûte. Mais je lui parle à l'olive. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que elle me parle, je lui parle, ou je lui dis je t'aime, moi aussi, d'accord? Ou je lui dis je t'aime pas, elle dit bon, moi non plus je t'aime pas. Mais il y a une relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'on a dans la vie, s'il n'y a pas de kavana, c'est qu'il n'y a pas de relation avec la chose. Dès qu'il y a une kavana, automatiquement il y a une relation avec la chose. Une relation positive ou négative. Ça peut être une relation d'amour, une relation de crainte, une relation que je veux m'approcher de la chose, je veux m'éloigner de la chose, mais il y a une relation. D'accord? Alors c'est la même façon, quand on fait une mitzvah, si on fait la mitzvah machinalement, je pense pas, j'ai mis les tefillines ce matin, je les ai mises, d'accord, mais peut-être que j'ai mis les tefillines sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. Donc du coup, j'ai même pas parlé à mes tefillines, c'est-à-dire j'ai même pas écouté ce qu'elles avaient à me raconter, quoi. Je les ai mises comme ça. Maintenant, d'un autre côté, des fois, moi, il y a des jeunes qui me disent, j'aime pas les tefillines, j'ai pas envie de mes tefillines. Moi, je me dis, c'est pas mal déjà qu'il me dit ça, parce que ça veut dire déjà qu'il a développé une relation avec les tefillines. C'est déjà pas mal. C'est pas qu'il dit je m'en fous, etc. Il te parle, il dit ça me parle pas parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a développé une relation avec la chose. Il a développé une relation. Ça veut dire que il a parlé avec les tefillines et enfin il parlait, c'est une image évidemment. Et il a dit ça m'intéresse pas parce que ça m'intéresse pas. Donc il a parlé avec les tefillines. Il a parlé. Alors ce qu'il te dit ici, Admor Zaken, il te dit niveau 1, si tu fais la mitzvah sans te poser de questions. Mais après niveau 2, tu te poses des questions. Tu passes dans la kavana. Et quand tu passes dans la kavana, et ben là, automatiquement, la mitzvah décolle. Si tu n'as pas la kavana, la mitzvah ne décolle pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette mitzvah? Juste terminer ce point, après, avec les questions avec plaisir. Ce qui se passe avec cette mitzvah, c'est que cette mitzvah, elle reste bloquée autour. Elle gravit comme ça autour. Ce qu'on appelle ici, chitsoniyut taolamot. Alors, littéralement, ça veut dire l'aspect extérieur des mondes. Ça veut dire que la mitzvah, elle reste bloquée. Elle reste bloquée, elle ne peut pas décoller. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du Harizal. Vous savez que le Harizal n'a pas écrit de livre. Mais le Harizal, il a eu un élève, un grand élève, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, qu'on cite souvent dans les cours. Et Rabbi Chaim Vital a consigné les enseignements du Harizal par écrit. Et Rabbi Chaim Vital dit la chose suivante. Donc je suis au milieu de la page 207. Ukmo shekatav a Rav Chaim Vital Béchar anevoa perekbet. Comme le Rav Chaim Vital a écrit dans La Porte de la Prophétie, d'accord, donc c'est un livre qui s'appelle La Porte, enfin c'est pas un livre à part, mais c'est une partie de ce texte qui s'appelle La Porte de la Prophétie, Perekbet, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Écoutez bien. Shemea Torah shelo bekavana nivraim malachim beolam ayitzira. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Vous allez voir la précision de ses paroles. Il dit, d'une Torah étudiée sans kavana, vont être créés des anges dans le monde de Yetzira. Ou mea mitzvot bli kavana, et des mitzvot qui ont été accomplis sans kavana, ça veut dire machinalement, nivraim malachim beolam asiya, vont être créés des malachim, des anges, des olam asiya dans le monde de l'action. Là, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur les anges. D'accord? Si je vous dis les anges, c'est quoi les anges? D'après vous, de quoi sont composés les anges? Bon, on va parler de nous les hommes déjà. De quoi nous les hommes sommes composés? Parce que c'est intéressant ce que dit Rabbi Chaim Vital. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il nous a donné une définition. Jusqu'à maintenant, on était dans le flou. On savait que si je fais la mise avec Kavana, ça décolle. Sinon, ça reste bloqué en bas. Ça reste bloqué où? Alors, te dire Rabbi Chaim Vital, ça reste bloqué, ça en fait des anges. Bon, maintenant, c'est quoi les anges? C'est quoi un ange? Alors, pour comprendre ce que c'est un ange, on va procéder par élimination. D'accord? On va voir qu'est-ce que c'est l'homme et qu'est-ce que l'ange n'est pas. Alors, déjà, l'homme est composé de quoi? De combien d'éléments est composé l'homme?
Quatre.
C'est quoi les quatre éléments?
L'eau, le feu.
Non, attendez.
L'eau, le feu, la terre.
L'homme est composé de quoi?
La terre.
Quel feu?
Attendez. L'homme est composé de quoi d'abord? Attendez, avant d'arriver en quatre.
D'accord.
Vous êtes composé de quoi? Ça veut dire, si je vous demande maintenant de séparer votre personne en deux.
Le corps et l'âme.
Vous allez me dire, l'âme et le corps. D'accord? Ou plutôt le corps et l'âme. Dans le langage des kabbalistes, pas que des kabbalistes, d'ailleurs des maîtres de la pensée juive, comme le Maharal, le Prat, etc., ça s'appelle Chomer, Tsura. Chomer, matière, Tsura, forme. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est la matière et l'esprit. D'accord? On va donner un exemple concret. Prenons par exemple ici, d'accord? J'ai devant moi ici un livre. C'est quoi la matière du livre? C'est du papier. C'est quoi le papier? C'est du bois. C'est quoi du bois? Du bois, c'est une composition, d'accord? C'est une composition. Donc il y a une composition qui est majoritairement végétale. Il y a aussi de la terre dedans, on a mélangé de l'eau, etc. D'accord? Mais ça, c'est la matière. Maintenant, pourquoi je suis pas venu au cours aujourd'hui avec un morceau de bois devant moi? Parce que le morceau de bois, il a peut-être la matière, mais il n'a pas la forme. Il n'a pas l'esprit. Donc il a, pour reprendre les termes de la Kabbalah, il a le chomer, il a la matière, mais il n'a pas de tsoura, il n'a pas la forme. D'accord? Donc si on devait maintenant prendre l'homme et dire, voilà, on va essayer de décomposer l'homme en deux. Après on fera en quatre, après on fera en plus. En deux, qu'est-ce qu'on a? On a chomer, tsoura. Chomer, c'est quoi? C'est la matière. C'est quoi la matière? De quoi on est composé?
De chair et du sang.
La chair, c'est quoi la chair?
La peau.
Des cellules.
Des cellules, de quoi? De quoi ils sont composés? Donnez-moi des définitions concrètes. Hein. Non, vous allez loin là.
De l'eau.
Déjà le lot, exactement.
Bah oui.
L'homme est composé majoritairement d'eau.
70%.
Plus que 110%. Plus. Ça peut aller jusqu'à 90%. C'est sérieux? Ça dépend de la corpulence.
Moi j'ai appris 70.
D'accord. Ça dépend. En fait, l'homme ressemble au monde. D'accord. Non, c'est énorme. L'homme c'est énorme ce qu'il a. D'accord. Alors attendez. Donc l'homme est composé d'eau. Donc vous imaginez maintenant, je vais voir David passer, je vais dire bah il y a de l'eau, il y a du sang qui passe là. C'est vrai, c'est du sang, non? C'est du sang et de l'eau. Donc je dis voilà, il y a du sang qui est passé. Dire, non, bah, attends, c'est David qui est passé. Pourquoi? C'est du sang qui est passé, non? Vous allez me dire la chair. C'est quoi la chair?
Sang.
Hein? C'est quoi la composition de la chair, monsieur Klosner?
Graisse.
Hein?
C'est
les cellules. D'accord, mais de quoi sont composées ces cellules? Comment elles se composent ces cellules?
Non, bah oui, il y a blanc, les cellules, il y a de l'ADN, il y a des ions, il y a...
D'accord. Donc on a... Maintenant, attendez.
Il y a de l'ADN, l'eau.
Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, vous prenez un cafard, il y a aussi des cellules?
Oui.
Bon.
Vous avez pensé...
Donc, quelle différence entre un cafard et moi?
Neshama.
Ah oui? Tu me dis les cellules. Il y a du sang et des cellules. Donc la même chose. Vas-y, un cafard.
Non, mais elles sont pas différentes.
L'organisation n'est pas la même.
Ah, c'est là. Donc qu'est-ce qui change?
L'organisation.
Ce qui change, c'est pas la matière.
Le capital génétique.
Ce qui change, c'est la tsoura. C'est la forme.
Non, mais ce qui change d'abord, c'est le capital génétique.
Bien sûr, mais ça veut dire que c'est la façon comment. Et si je trouve un gros cafard qui est aussi gros qu'un homme?
Mais ça s'écrit pas pareil.
Ou un singe. Vous savez, le rabbi l'a raconté que quand il était enfant à l'école, il y avait des enfants qui arrêtaient pas de lui dire, tu sais, aujourd'hui les scientifiques ils disent qu'on descend du singe. Et le rabbi il a raconté, bon, les bêtises qu'il raconte aujourd'hui encore. Et le rabbi il a raconté que ça perturbait en tant qu'enfant. Ça perturbait parce qu'il se dit, comment on peut dire qu'on descend du singe? Surtout, il a étudié la Torah. Enfant, 6-7 ans, ça le dérangeait. Il a raconté dans un Fabringen. Et il a dit une fois, il en a parlé à son professeur. Il avait beaucoup de respect pour son professeur. Il en a parlé à son professeur. Il a dit, vous savez, j'entends des copains à moi qui étaient étudiants d'autres écoles qui me disent qu'on descend du singe, ça me perturbe, etc. Et il a dit, vous savez, c'est ce que son professeur lui a répondu. Il a dit, mais laisse-les. S'ils veulent descendre du singe, ils ont qu'à descendre du singe.
Voilà, ça dérange personne.
Quelqu'un il veut descendre du singe. Tu veux dire que le singe est ton arrière-grand-père? Bah, dis que c'est le singe.
Voilà, c'est bien.
Dis que c'est le loup, tant qu'à faire. Ou dis que c'est l'agneau, vas-y, pas de problème. Voilà. D'accord? Parce que nous, en vérité, on sait quoi? On sait qu'il n'y a pas de rapport entre l'homme et le singe.
Bah, non.
Évidemment qu'il n'y a pas de rapport. Évidemment que l'homme est une créature qui a été créée telle quelle par Akadosh Baruch Hu. Alors, vous savez, des rapports sur le ventre, on peut en trouver partout. On peut tout expliquer. Mais, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme est composé de deux choses. Chomer, Tsura. Chomer, c'est la matière. Tsura, c'est la forme comment a été, donc c'est l'esprit, c'est la forme comment a été utilisée cette matière. Bon. Maintenant, si on va aller un peu plus loin, il est vrai que le corps de l'homme est composé de quatre éléments. La matière du corps de l'homme, donc, est composée de quatre éléments. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Esh, vous avez dit, c'est le feu. Ruach, le vent. Maïm, l'eau. Afar, la terre. Mais ça, le cafard, il les a, les quatre aussi.
Oui, oui, tout.
Vous m'excusez de la comparaison, hein. Parce que moi, ça me répugne les cafards, mais bon, voilà. Donc,
tout le monde.
Une souris, si vous voulez. D'accord? Donc, ça veut dire que, en plus, tiens, c'est pas mal les souris. Même le cochon, vous savez. Vous savez que le cochon, il a un système digestif qui ressemble au système digestif de l'homme. C'est écrit dans la Gemara.
Et cardiovasculaire.
C'est écrit dans la Gemara, ça. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, la Gemara dans le traité Taanit, elle dit que lorsqu'il y a des maladies chez les, certaines maladies chez les cochons, il faut s'inquiéter pour les hommes. Parce que le cochon, il a un système digestif et cardiovasculaire qui ressemble beaucoup, qui est pratiquement identique à celui de l'homme. Alors vous imaginez? Le cochon, il a de la chair. Le cochon, il a des intestins. Le cochon, il a aussi un cerveau. Bon, il réfléchit pas comme nous, mais je vais réfléchir. Alors finalement, quelle est la différence entre moi et un cochon? Le cochon aussi, il est basé avec Esh, Ruach, Maïm, Afar. Le feu, le vent, l'eau, la terre. D'accord? Quelle est la différence? La différence, c'est la Neshama. C'est la Tsura, c'est la forme. La différence n'est pas dans la matière, la différence est dans la forme. D'accord? Ça veut dire que par exemple, vous allez aller dans un magasin, vous allez prendre des crayons et vous allez faire une tache d'encre ou une tache sur un papier. Votre papier, il vaut même pas le prix de... Vous avez gâché le papier, il vaut même pas le prix de la feuille dans laquelle vous l'avez mis. Vous l'avez mis chez un artiste, chez un Picasso.
200 000.
Qu'est-ce qui fait que le tableau, il vaut tellement cher? Est-ce que c'est l'encre qu'il y a dessus? Est-ce que c'est le support? Non! C'est pas la matière, c'est la forme. Ça veut dire que ce qui donne la valeur à une chose, ce n'est jamais la matière. Retenez ça. Ce n'est jamais la matière, c'est la forme. La forme qu'on donne à la chose. D'accord?
C'est vrai.
Et ça, c'est un grand principe dans la vie. Ça veut dire que dans la vie, on peut avoir toutes les qualités qu'on veut et tous les défauts qu'on veut. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on en fait. D'accord? C'est pas l'intelligence que j'ai, l'argent que j'ai, la beauté que j'ai. Ça, c'est de la matière. Et la matière, un cafard aussi peut en avoir. Ce qui va faire ma particularité, c'est la forme. Comment je vais utiliser cette matière? Très bien. Maintenant, je mets ça de côté. On va essayer maintenant de parler des anges, parce que rappelez-vous, on voulait parler des anges. Rabbi Chaim Vital. Hein, on n'a pas perdu de vue. Les anges sont composés de quoi?
Apparemment, ils n'ont pas de matière.
Ah. Les anges n'ont pas de matière?
Apparemment, ils n'ont pas de matière.
Alors, les anges dans l'esprit, c'est sûr, ça. Alors, ils ont une matière ou ils n'ont pas de matière?
Oui, ils ont une matière visible.
C'est quoi la matière?
Ça n'est pas toute la...
Ils n'ont pas une matière visible.
C'est quoi la matière?
Alors écoutez bien ce que dit... Écoutez bien ce qu'explique le Zohar. Écoutez bien ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, aucune Tsoura est possible sans Chomer. J'explique. Aucune forme est possible sans matière. Parce que c'est logique, bah oui. Parce que s'il y a une forme, c'est que forcément, il y a quelque chose qui est façonné. Or, s'il n'y a pas de matière, donc il n'y a rien à façonner. Donc, même les anges, dès lors qu'on dit que les anges ont une forme, ça veut dire ont un esprit, ça veut dire qu'ils ont une matière. Ah, dans ce cas-là, comment ça se fait que je vous vois tous et je vois pas les anges qui sont ici. Vous savez qu'il y a des anges ici, il y a des anges partout.
Ah, hein, mais on les a vus dans la parasha de cette semaine, dans la Tara de Simchon.
Exactement. Alors pourquoi pourquoi les anges on n'arrive pas à les toucher?
Voilà.
Pourquoi les anges on n'arrive pas à les toucher? Pourquoi on n'arrive pas à les voir? Pourquoi on n'arrive pas à les entendre? Parce que les anges, leur matière, ils ont une matière. Mais ils ont une matière qui est différente de la nôtre.
Voilà.
C'est quoi leur matière? Eux, ils ont une matière qui est basée seulement sur Esh Verouar. Sur le feu et le vent. Vous savez d'où on apprend ça? Dans le Tehilim, le psaume qu'on dit, Osem, le psaume de Rosh Chodesh, psaume 104, Osem Malachav Ruchot, Meshartav Esh Loet. Dieu fait ses anges avec des vents, ses serviteurs avec un feu bouillant. Donc j'ai cité deux choses ici, le vent et le feu. Esh Ruach. Maintenant, est-ce que moi je suis capable d'expliquer qu'est-ce que c'est un élément qui est composé de deux éléments? Je suis incapable de dire, parce que tout ce qu'on a autour de nous, et tout ce que nos yeux arrivent à voir et que nos oreilles arrivent à entendre sont forcément une composition des quatre éléments. Alors il y a un peu plus, un peu moins, c'est un dosage. Mais il y a forcément un peu des quatre éléments, obligatoirement.
Oui.
Ok. Les anges, eux, ils sont basés seulement sur deux éléments. Esh, d'accord? Esh et Ruach. Le feu et le vent. Alors attendez, deux secondes. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Une personne a fait une tfila. Ok? Une personne a fait une tfila. Et il a fait cette fila sans kavana.
L'amida.
Par exemple, pas que l'amida. Il a fait la tfila. Il a fait une mitzvah sans kavana. Bon, il a mis les tfilines sans kavana. Qu'est-ce qui se passe avec cette mitzvah? Il faut bien comprendre que chaque fois que je fais une mitzvah, je génère une réalité. On peut peut-être ne pas le comprendre, mais c'est une réalité. Ça veut dire que chaque fois que je fais une mitzvah ou que j'étudie la Torah, je génère une nouvelle réalité autour de moi.
Donc la réalité, c'est l'ange?
Donc, cette réalité, c'est quoi? Cette réalité, c'est l'ange. Seulement. Voilà ce qu'il avait expliqué l'Admor HaZaken.
Donc je suis le père d'un milliard d'anges alors.
Donc, exactement. Attendez, justement, deux secondes. Excusez-moi, je vais juste arriver. Seulement, voilà ce qu'il veut te dire. Quand tu as fait une mitzvah, forcément, dans la mitzvah que tu as fait, il y avait une matière et une forme. Obligatoirement. Par exemple, j'ai mis les tfilines. Allez, c'est quoi la matière des tfilines?
C'est le cuir.
Donc j'ai utilisé une peau de cuir. On avec une peau de cuir, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme mitzvah? Dites-moi un exemple, donnez-moi un exemple.
Des chaussures.
J'aurais pu faire, par exemple, une mezouza. D'accord? J'aurais pu faire, exactement, une ceinture. Bon, c'est pas forcément une mitzvah. J'aurais pu faire autre chose. Je reviens beaucoup de choses. Donc, forcément, quand j'ai fait une mitzvah, il y a obligatoirement une matière et une forme. Obligatoirement. Donc, c'est la raison pour laquelle on te dit, lorsque tu fais une mitzvah, même si tu l'as fait sans kavana, obligatoirement, tu génères une réalité. Parce que l'ange, lui aussi, est basé de deux éléments. Il est basé de Chomer, Vetsura, la matière et l'esprit. Or, dans ta mitzvah aussi, il y a la matière et l'esprit. Il y a la matière de la mitzvah, c'est le cuir. Et il y a l'esprit, c'est la forme. C'est le fait que tu as pris une peau de cuir, qu'il y avait dedans un parchemin. Donc, il y a forcément une forme que la chose a prise. Cependant, ce que dit l'Admor HaZaken, c'est très simple. Il te dit, lorsque tu as fait une mitzvah sans kavana, la forme de l'ange reste limitée, elle reste bloquée. Ça veut dire qu'il y a une forme qui est strictement limitée, mais il ne peut pas décoller, il ne peut pas avoir des anges. Il ne peut pas avoir des ailes, il ne peut pas décoller. Ça veut dire comme ça, pour être clair. Il est évident que chaque mitzvah que j'accomplis, je génère obligatoirement des anges. Pourquoi? Parce que dans chaque chose que j'accomplis, il y a obligatoirement la matière et l'esprit. C'est sûr. Il y a une forme, il y a une matière et une forme. Donc obligatoirement, lorsque j'accomplis la mitzvah, il y a obligatoirement un ange qui va être généré, qui lui aussi a les deux. Il a Chomer, Vetsura. Il a la matière et l'esprit. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. On crée des anges concrètement. D'ailleurs, vous savez, on dit que lorsqu'on arrive en haut, comment Dieu nous juge? Vous savez comment Dieu nous juge? Il regarde les anges qui sont autour de nous. C'est horrible, ça, la vérité, c'est horrible, ça. C'est-à-dire qu'il a même pas besoin d'ouvrir les cahiers.
Il parle
pour toi. Il dit, on va voir qui vient avec toi.
C'est ça vient une question là. Que tu dis.
Attendez, maintenant, qui vient avec moi? Il y a des blancs et des noirs.
Est-ce que les anges peuvent nous causer?
Je vais vous expliquer. Un ange, il n'a même pas besoin de parler. C'est une réalité qui est générée par ce que je fais.
Non, mais si tu veux, quelquefois, on a le sentiment de vivre de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu. Tu vois? Et pourtant, là. Il y a quelque chose qui revient comme ça. Ça veut dire,
Donc, si on
est-ce que ce serait un ange?
Un ange peut te parler. Mais là, c'est pas de ça que je parle. Là, je parle des anges qui sont générés par ce que je fais. Automatiquement.
Ceux qui engendrent les anges.
Oui. Mais on n'est pas au niveau de parler avec les anges. Pardon? Oui.
Si j'ai rien fait, si j'ai pas vu la cavana, je les ai créés, mais ils avancent pas non plus.
Voilà.
Ils stagnent.
Ils stagnent. Ils sont là. Ils sont là, ils restent là.
Est-ce que c'est Mandy, alors là, tu vas. En principe,
bien sûr, bien sûr. Il y a la tchouva. Attendez.
Anges qu'il a créé.
Bien sûr qu'il y a la tchouva. On va parler de la tchouva.
Non, mais quand il part dans l'autre monde, est-ce que les mauvais anges, ils vont quand même avec lui dans le moment?
S'il a fait tchouva, c'est-à-dire qu'il a transformé les mauvais anges en bons anges.
Donc c'est des bons
anges. Bien sûr, on peut les transformer. On peut les guérir.
Pourtant, on dit bien que l'homme, il doit payer, même s'il a fait tchouva, il doit payer ce qu'il a fait et on lui récompensera.
Non, ça dépend. S'il a fait une bonne tchouva, il a transformé ses anges. C'est fini. Ses anges, il les a guéris. Ils étaient malades, ils sont en bonne santé maintenant.
Est-ce que les anges qui sont créés dans le monde d'Assia et dans le monde Yetzira, c'est deux anges différents?
Évidemment.
Ou alors c'est les mêmes anges qui sont créés ou ici ou là?
Non, c'est deux catégories d'anges différentes. Plus on monte, plus c'est spirituel. Voilà. Mais déjà, ce qu'on veut comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et ça je pense que c'est déjà la première nouveauté du cours d'aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas parlé de ça jusqu'à maintenant, cette idée, que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on génère un ange. On crée un ange. On n'a pas le choix. C'est même pas que. Hein? Ah, c'est le Zohar qui en parlait. La Gemara en parle aussi.
Un enfant qui fait la Tzedaka.
La Gemara en parle aussi.
Un enfant qui met une Tzedaka.
Oui, mais non, il pose une question. Est-ce qu'on a une preuve cartésienne logique?
C'est une Gemara,
par exemple. Dans la Gemara, non, pas sûr qu'on en parle. C'est sûr qu'on en parle. Chaque mitzvah qu'on fait, on crée des anges.
Un enfant qui
fait. Et attendez, c'est pas seulement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces anges restent ad vitam aeternam. Il reste jusqu'à la fin des temps. Maintenant, attendez.
J'espère pas.
Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez les tzadikim aujourd'hui qui nous disent qu'on s'approche de Mashiach, nous on a du mal à comprendre, parce qu'on se dit, attends, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de juifs qui font des mitzvot, on est loin du compte encore. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les tzadikim, eux, ils arrivent à voir les anges qui ont été générés par des générations de juifs qui ont fait des mitzvot. Et même s'ils ont fait des averot, mais entre temps ils sont partis au Geinom Ha'o, ils ont payé, donc les mauvais anges, c'est fini, on s'en est débarrassé. Mais les bons anges, ils restent ad vitam aeternam, ils sont jamais détruits. C'est-à-dire, quand je fais une mitzvah, l'impact de cette mitzvah, il est indestructible.
Donc, les gilgulim, c'est en fait,
ah oui.
c'est la transformation des mauvais en bons, c'est ça?
C'est pour réparer ce qui n'a pas été fait ou pour transformer les mauvais en bons, c'est tout.
Donc, c'est nos juges auprès d'Hachem, alors?
Ah oui, c'est nos juges auprès d'Hachem, bien sûr. Ah, mais, mais c'est énorme ce qu'on est en train de créer.
C'est l'épreuve du jugement.
Et attendez, je vais vous dire plus que ça. Je vais vous dire plus que ça, deux secondes. C'est que la qualité de l'ange va dépendre de la qualité de ma mitzvah. Comme ça, il dit Rabbi Yosef Yitzhak, qui disait que lorsque je fais une mitzvah, lorsque je fais une prière, par exemple, que je prononce mal, ben je crée un ange qui est boiteux.
Mais
je crée un ange quand même. Mais il est boiteux.
Parce que quand on apprend à lire au départ, on l'image.
Non, quand on apprend à lire, on apprend à lire. C'est pas de ça que je parle. L'ange aussi, il apprend à lire. Pas de problème. Là, on parle d'un cas dans lequel, sciemment, quoi, volontairement, je m'investis pas dans ce que je fais. Quoi, j'en ai rien à faire. Je fais machinalement. Ben, je crée un ange qui est handicapé. Et après, voilà, c'est une tâche. Après, on peut guérir, oui ou non, bah, ça demande la tchouva, etc., mais ça demande du travail. Et chaque chose qu'on fait, chaque mitzvah qu'on fait, c'est pour ça, je vous dis, quand tu fais une mitzvah, fais-la bien.
Donc, chaque mot qu'on dit.
Chaque parole. Tout ce qu'on dit.
Ou pas bien, en dehors ou pas en
tout
dehors.
Ce qu'on dit est créateur. Faut le savoir. Tout ce que je fais, en particulier les mitzvot et l'averot. Mitzvot, c'est créateur, averot, c'est destructeur. Tout. Tout ce qu'on fait. Ça fait peur, à la limite, hein, ça fait peur de penser comme ça. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, on a peut-être chacun de nous créé des milliers d'anges. Aujourd'hui, juste aujourd'hui.
Mais alors, un juif qui fait rien, parce qu'il est très loin, avant qu'il arrive, est-ce qu'il va créer, il crée quoi?
Non, parce que
un juif qui est éloigné.
Il n'est pas conscient.
Ben là, dans ce cas-là, Dieu, Dieu peut faire, il est créé quand même.
Non, mais avant, avant qu'il fasse chou.
Oui, mais il n'est pas là.
Il y a des juifs qui n'ont rien fait.
Oui, évidemment, évidemment. Oui, mais en général, une personne qui fait de chouva, on lui dit de ne pas se préoccuper de ce qu'il a fait avant. On lui dit d'abord de prendre bien avancer et après lorsqu'il arrivera.
Mais prenons des juifs qui pour l'instant.
Moi je connais des gens voilà qui ont fait une tchouva et après au bout de quelques années ils ont dit bon maintenant on aimerait faire tchouva sur ce qu'on a fait avant. Ça veut dire font tchouva, ça veut dire il dit bon on oublie ce qu'il y avait avant maintenant on démarre. Bon c'est bien. Mais après au bout de 5 ans 10 ans il dit bon maintenant que je suis en bonne vitesse de croisière je veux maintenant un tikkun de ce que j'ai fait avant. Il y a des tikkuns pour ça. Mais en général on n'est pas dans cette approche parce que on considère que c'est déjà assez difficile d'aller vers l'avant et si en plus maintenant en plus d'aller vers l'avant on doit voir ce qu'on a fait dans le passé, on dit que Dieu il réglera les comptes avec le passé et c'est tout. Oui, vous avez une question.
Tu disais que une fois que au tout début de la création, Dieu avait préparé, on va dire, une espèce de grand vase géant où il y avait toutes les néchamoles. D'accord, et puis ils sont descendus sur terre, bien sûr, pour rentrer dans chacun de nous.
Oui.
Est-ce que le contraire, ce serait que maintenant que toute une échamote repart là-bas, peut-être avec.
En haut.
C'est ça, l'idée?
Non, l'idée c'est
que les anges viennent nous accompagner pour essayer de forcer.
L'idée c'est comme ça. C'est que la Kadosh Baruch, c'est comme, si vous voulez, c'est comme, comment vous dire, c'est comme, vous avez, comme dans un jeu. Imaginez que dans un jeu, vous devez chercher 600 000 pions.
C'est ça, oui.
D'accord? Donc, vous envoie ça, comme les jeunes, ils ont un jeu. Il faut chercher des pièces, etc. Maintenant, une fois que tu as récupéré la pièce, elle est récupérée.
D'accord.
Donc, il n'y a pas besoin d'aller la rechercher. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, une âme qui a déjà fait son travail, elle a fait son travail, on la met de côté. Mais, on la met de côté en stand-by au Gan Eden, jusqu'à Mashiach, où tout le monde redescend en bas. Sauf que là, tout le monde redescend en bas dans un monde parfait. C'est-à-dire, d'abord, chacun fait son travail, et Dieu, dans son extrême gentillesse, il dit, une fois que tu as fini ton travail, on te ramène en haut. C'est pas mal, ça. C'est-à-dire, on dit, t'as fait ton travail, et une fois que t'as fini ton travail, on te met en haut. Comme ça, on sait que ça bougera pas.
Toi, t'es prêt.
Ça bougera pas, toi, t'es prêt. Parce que si on te laisse en bas,
tu vas recommencer.
On dit, si Neshama, elle a fini son travail, on la envoie en haut, on dit, toi, tu bouges plus, tu restes en haut. T'attends ma chère, maintenant. Et les Neshama, qui attendent ma chère, ça fait 2000 ans. C'est pas grave, ils ont fini leur travail. Nous, si on est là, c'est parce qu'on appartient à des âmes qui n'ont pas fini leur travail. Donc, quand on n'a pas fini leur travail, on doit redescendre. On doit redescendre, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Donc, rappelez-vous. Tout ce qu'on dit, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on génère un ange. Chaque fois qu'on fait une avéra, on génère aussi un ange. Il y a des anges constructeurs, des anges destructeurs. Il y a les deux. Et donc voilà, il te dit, lorsque tu fais une mitzvah avec Kavana, tu crées un ange avec une matière et un esprit qui en plus décolle. Là, c'est la totale. C'est-à-dire, vous créez une fusée qui décolle. Maintenant, lorsque vous faites une mitzvah ou je fais une mitzvah sans Kavana, je crée une fusée qui ne décolle pas, qui n'a pas encore décollé.
C'est quoi le mode d'emploi alors
pour
le mode d'emploi pour la bonne kavana.
Le mode d'emploi pour la bonne kavana, c'est très simple. Non, c'est pas compliqué. Il ne faut pas chercher les complications. Le mode d'emploi, il y a une seule règle pour la kavana. C'est y mettre du cœur. Du cœur. Ça veut dire prêter attention à ce que je fais. Il suffit de prêter attention à ce qu'on fait et
rien que la pensée. Sans parler.
N'avez pas idée le nombre de problèmes qu'on réglerait dans la société d'aujourd'hui si juste on prêtait attention à ce qu'on faisait. Prêtez attention. Par exemple, tout à l'heure, tu vas rentrer à la maison. Tu as une femme. D'accord? Tu vas lui dire bonjour. Bon, j'espère. Est-ce que tu as prêté attention une fois, c'est quoi une femme? C'est qui ta femme? Et ça veut dire quoi que c'est une femme? Non, réfléchis plus après, c'est fini, t'es marié, c'est terminé. Tu vas parler après à ton fils. Tu vas parler à ta fille. Après, tu vas ouvrir un livre. Tu vas venir dans un endroit. Est-ce que tu prêtes attention? Ça, c'est un mamar du rabbi Yosef Yitzhak, dans lequel il explique la chose suivante. Il dit que la plaie, et ça, il a dit, ça fait presque un siècle. Alors, si je vous dis aujourd'hui, avant les smartphones et les hand spinners et les bêtises, là, d'accord? Ça veut dire que à l'époque, déjà, ça fait un siècle, il dit, le problème de la génération, c'est que les gens ne prêtent pas attention. Prêtent pas attention. Et c'est tout! C'est-à-dire, ils prêtent pas attention à ce qui est devant eux, à ce qui est derrière eux, à celui qui est en face de lui, à qui il parle, à ce qu'il fait. Et quand on prête pas attention, tout devient machinal. Et quand tout devient machinal, voilà ce qui se passe. Et tu crées des anges, ils sont bloqués. Si on suffit de prêter attention. Voilà, par exemple, ce soir, j'ai fait un effort. Je suis venu à un cours. Bon. Pourquoi je suis venu au cours? Est-ce que je suis venu machinalement? Il faut que dans la route, par exemple, la route avant de venir au cours. Il y a une envie qui était peut-être la première fois que j'ai pris la décision et qui est peut-être une envie qui est latente, qui est là. Mais est-ce que je peux dire que j'ai une envie qui est constante et que je vis la chose? C'est plus difficile. Peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On peut parler d'une envie. D'accord? Ah, c'est vrai. C'est la vérité. Mais pour une personne qui est déjà habituée, des fois, c'est pas qu'il a pas envie, c'est que bon, c'est comme ça. Il prête plus attention à ce qu'il fait. Très peu attention.
Encore qu'il doit venir activement quand même.
Oui, il va venir. On n'est pas dit qu'il est pas venu. Ah, encore une fois, il est venu. Il a fait la mitzvah. Je suis pas en train de lui dire de rester à la maison. Il est venu kol hakavod.
Il peut avoir des déclencheurs, il peut avoir des mots qui vont.
Oui, mais très souvent, la vérité. Si vous faites le bilan, regardez, ne le faites pas maintenant parce que vous allez vous perdre du cours. Faites le bilan tout à l'heure quand vous rentrez chez vous. Essayez de revoir votre journée et essayez de vous poser la question sur toutes les actions que vous avez faites dans une journée, qui sont des milliers d'actions, voire des fois des dizaines de milliers d'actions. D'accord? Mais bon, essayez de prendre par exemple 20 choses que vous avez fait aujourd'hui. Et essayez de vous poser la question sur ces 20 choses que vous avez fait depuis ce matin, que vous êtes réveillé jusqu'à ce soir. Quelle action j'ai fait machinalement et quelle action j'ai vraiment prêté attention à ce que je faisais? Si vous me répondez à 1 sur 20 que vous avez prêté attention, c'est déjà pas mal. Et si, faites le test, comme on rentrait chez vous tout à l'heure.
Moi, j'ai bagué dans mon magasin.
Voilà, par exemple. Vous avez prêté attention à ce que vous faisiez?
Oui, parce qu'il fallait que ce soit propre.
Oui, d'accord, non, mais attendez. Mais vous n'avez pas prêté attention. Ça, vous n'avez pas dire, vous n'avez pas prêté attention. Je fais ça parce que j'ai des clients qui arrivent et qu'il faut que ce soit propre pour mes clients. T'as pas pensé à ça? C'est machinalement, c'est sale, je nettoie.
C'est bien que les clients rentrent.
Hein? Ah oui. Ah, qu'est-ce que vous pensez, M. Klausner? Comment, trouvez-nous un nom en psychologie pour définir cette idée là, que des fois on fait quelque chose sans y penser, sans y penser du tout en vérité. Machinalement. En
action. Bah là, on le fait oui, parce que c'est inconscient par rapport. Mais après, il y a des choses.
Non, j'ai pas envie de dire inconsciemment. J'irai pas jusqu'à là. Sans mais c'est. Sans application, sans intérêt, sans investissement. Voilà, on s'investit plus. On s'investit plus. C'est ce qui change tout.
Je n'investis pas, en fait. Non, je sais que j'ai une culture consciente.
J'ai parlé de recettes avec des Arabes. J'ai parlé de recettes. Par contre, il y a un fric à l'œuf.
Très bien.
Voilà. Parce qu'on parlait de tout et de rien.
Donc, vous avez prêté attention à ça.
Ah ben. Mais ça leur a plu.
Qu'est-ce qui explique que moi, je vois les jeunes hommes, lorsqu'ils viennent de se marier, tu les vois, ils sont attentionnés avec leur femme, d'accord? Et tu les revois 10 ans plus tard, à peine s'ils la regardent. Qu'est-ce qui a changé entre les deux?
Hein? Il a prêté attention.
C'est qui prête plus attention? C'est tout. Il prête plus attention. Quoi, tu vas dire, elle a changé? Toi aussi, t'as changé. Ah oui, on a changé les deux. Ok, on va continuer. Alors, dans les mots, aval, mais on tourne la page, page 208. Aval, mais Torah chez l'Olishma, une Torah qui n'est étudiée chez l'Olishma. Chez l'Olishma, ça veut dire dans quel cas on a dit qu'avec ma Torah et mes mitzvot, je crée un ange? C'est parce que j'ai étudié une Torah et j'ai fait une mitzvah sans intérêt. J'ai pas cherché un intérêt spécifique. C'est fait comme ça, machinalement. C'est pour ça qu'on dit, écoute, tu as créé un ange, mais cet ange, il n'est pas d'elle. Il peut pas décoller.
Pourquoi on dit Shilolishma? Pourquoi on dit pas Shilolishma seulement?
Alors attendez. Maintenant, il y a un nouveau cas, et on avait parlé de ce cas aussi, mais là, on va le développer. C'est quoi l'autre cas?
Hein? Il y a deux négations.
C'est si j'ai fait une mitzvah, Je l'ai fait chez l'Olishma, c'est-à-dire je l'ai pas fait pour Dieu, mais c'est pas seulement que je l'ai pas fait pour Dieu. Je l'ai fait carrément pour une autre raison. Pour un intérêt qui est négatif. Comme on a donné plusieurs exemples. Kigon par exemple, Liot Tamit Racham, Uka Gavna. Par exemple, d'accord? Celui qui étudie la Torah pour être Tamit Racham, etc. Uka Gavna, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des fois par exemple des gens qui vont étudier la Torah pour avoir quoi répondre. Ou bien, on a parfois des gens qui vont étudier la Torah pour essayer d'autoriser des choses interdites.
Instruire.
D'accord? Ou des gens qui vont étudier la Torah pour augmenter leur ego.
C'est bien. D'accord? Ça,
non pas du tout.
Leur connaissance, pas comme ça, en tout cas.
Pas du tout, non. C'est bien sûr, c'est bien
sûr. Leur connaissance, quoi.
Alors attendez. Est-ce que ce juif, il a fait une mitzvah? Bien sûr qu'il a fait une mitzvah. Mais là, je ne peux pas dire qu'avec sa mitzvah, il a créé un ange. Il a fait une mitzvah, mais il n'a pas créé un ange.
Il a créé un démon.
Alors qu'est-ce qu'il a créé? Il l'a dit, ah, Valmé, et donc, et no, la clalemala, pardon, elle ne monte pas du tout en haut. Page 208. A filou les chalot madorim de Gusha, et la nish eret le matabo la mazagashmi, elle reste bloquée en bas, dans ce monde matériel. Chez où m'adore un clipote, ce monde qui est la demeure des clipotes, qui est la demeure des forces du mal. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah reste bloquée en bas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est très simple. Ce qui explique les commentaires sur le Tanya, ils disent que, quand j'ai accompli une mitzvah par un intérêt qui est négatif, par exemple, voilà, il a étudié la Torah pour du kavod. Ce qui se passe, c'est que l'intérêt est comme une pierre qui est posée sur la mitzvah. Imaginez, vous avez un ballon avec de l'hélium qui est là, qui peut décoller, mais vous exercez dessus une pression. D'accord? Vous l'empêchez de monter. Alors, est-ce que ça veut dire que le ballon n'est pas là? Si, le ballon, il est là. L'hélium est là, tout est là, il peut décoller. Mais avec l'intérêt négatif que j'ai eu, ça bloque la mitzvah. Pour ça, je préfère vous dire que c'est quand même assez rare. Surtout chez les juifs, on va dire un juif moyen, c'est rare quand même d'accomplir une mitzvah par un intérêt négatif. En général, soit on ne les fait pas, soit on les fait machinalement. Mais il peut arriver parfois qu'on fait une mitzvah par un intérêt négatif. Il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut trouver pour ça. Un intérêt négatif. Là, celui qui est dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, il est bloqué en bas. On va sauter la note.
C'est quoi une mitzvah négative?
Une mitzvah
négative.
Je n'ai pas compris. Un intérêt négatif, vous voulez dire?
Non, oui, quelqu'un qui fait mitzvah, comme vous avez dit, il fait ça. C'est quoi? Il a quand même fait la mitzvah. Qu'est-ce qu'elle peut être négative?
Oui, mais attendez. Il a fait la mitzvah, ouais. Mais il l'a pas fait pour un bon mobile, pour une bonne raison. Il a fait pour une mauvaise, pour une sa motivation n'était pas bonne.
Mais il a fait la mitzvah.
Oui, il a fait la mitzvah, mais sa motivation n'était pas bonne. Vous comprenez? Elle pouvait parfois être mauvaise.
C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Ben, je vous donne un exemple.
Parce que quand on fait mitzvah, je donne la tzedaka.
Imaginez par exemple quelqu'un, voilà, demain c'est le gala. Imaginez par exemple quelqu'un qui va donner la tzedaka. D'accord? mais qui n'a pas donné pour la mitzvah.
Ah non.
Pourquoi il a donné? Il a donné pour montrer aux autres qu'il a donné. Pour qu'on dise de lui qu'il a donné.
Égo,
pour son ego. Bien sûr qu'il y en a des gens comme ça.
Ah bon?
Bien sûr qu'il y en a.
Bon.
Ouais. Alors attendez, le fait qu'une personne qui fait une mitzvah, on lui met une plaque, ça c'est écrit, c'est normal, parce que quelqu'un a fait une mitzvah, il faut lui donner un kavod, c'est normal, il mérite ce kavod, il a fait un effort, il aurait pu utiliser sa force autre chose, il a fait une mitzvah, c'est écrit, le Rashba il dit qu'il faut diffuser ceux qui font des mitzvot, il faut, bien sûr, d'abord parce qu'il faut que leurs enfants voient que ces gens-là ont fait des mitzvot. D'accord. Et il faut aussi qu'ils montrent l'exemple à d'autres, qu'on fait des mitzvot. Il faut pas hésiter à donner, à montrer. Cependant, je pense que celui qui est venu, qui a donné, il n'a pas donné pour la plaque. Il n'a pas donné pour qu'on dise. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il s'est pas dit, je vais me séparer d'une certaine somme d'argent pour qu'il y ait une plaque à mon nom. Pas du tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il veut faire une mitzvah. Mais il peut avoir une carotte. Ou il peut avoir aussi une vraie raison. C'est que bon, il veut que ses enfants, c'est vrai. C'est un poste important. C'est important quand vous êtes dans un endroit, vous pouvez pouvoir montrer aux enfants, regarde la mitzvah que j'ai fait, pour montrer l'exemple aux enfants. Soit ils vont me dire, j'ai fait, j'ai pas, montre-moi que tu as fait. C'est important de laisser des traces de ce qu'on fait. Très important. Après, chacun décide comment il fait. Est-ce que c'est un peu plus visible, un peu moins visible? Bon, c'est de la forme, ça. Mais c'est important de laisser une trace de ce qu'on fait. Mais, on peut pas dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez dans toutes les synagogues, vous avez des plaques partout. C'est vrai, c'est un peu, réalité, moi, au début, quand on a commencé ici à la synagogue, les plaques, j'aimais pas trop. Mais après, j'ai compris, surtout quand tu vas à la synagogue autour, que c'est comme ça. Et c'est pas seulement un moyen de ramasser de l'argent. C'est que c'est comme ça. C'est que, quand tu as le nom de quelqu'un qui est gravé dans la pierre, ça veut dire que son nom, il est gravé ici. Cependant, c'est une absurdité de dire que celui qui a donné, il a donné l'argent pour qu'on l'honore. C'est grave de parler comme ça. Il n'a pas donné de l'argent pour qu'on l'honore. Il a donné de l'argent pour la mitzvah. Maintenant, imaginez. Donc voilà, ça c'est un exemple du mitzvah. Ça veut dire que tu as celui qui a la mitzvah que pour la mitzvah. Tu as celui qui a la mitzvah avec, au fond de lui, il y a une petite voix qui lui dit, bon, et t'auras aussi du kavod. Bon, c'est un petit intérêt. Maintenant, imaginez une personne qui a fait une mitzvah uniquement par intérêt négatif. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, il marche dehors dans la rue, il voit un vieux monsieur en train de marcher qui va presque casser la figure, il est là avec des caddies, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller aider ce vieux monsieur, pas pour l'aider. Comme ça, les autres, ils vont voir que j'ai aidé. En fait, il s'en fiche du vieux monsieur. Il en a rien à faire.
Quelle idée.
D'accord? Quelle idée macabre.
Ah ouais.
Alors attendez, mais le problème, c'est quoi? C'est que ce bonhomme, est-ce qu'il a aidé le vieux monsieur, concrètement?
Oui.
Il l'a aidé.
Mais il y a que lui qui le sait.
D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette mitzvah?
Est-ce que dans ce cas précis, ça existe? Ou alors c'est une idée portée à l'extrême par les commentateurs?
Tout est possible.
L'idée que tu développes maintenant, c'est un cas extrême de chez extrême. Est-ce que ça existe, ça, réellement dans la réalité?
Tout existe.
Vu mon métier, je peux dire que oui.
Tout existe.
Mais ça veut dire qu'ils sont malades, les gens?
Non, ça dépend. On peut être.
Ils sont malades.
À mon avis, chacun de nous est malade dans certains domaines. Seulement, il y a des gens qui sont très malades.
C'est un problème de personnalité plus que de maladie. À un moment donné, certains veulent nourrir sur certains aspects leur ego, leur narcissisme. C'est tout. C'est un problème d'ego et de narcissisme sur certains aspects.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette mitzvah? Tu comprends? Imagine-toi quelqu'un par une, voilà. Il voit quelqu'un dehors, en train de galérer, il va l'aider, mais pas pour l'aider. Juste pour qu'une autre personne le regarde et qu'il dise que regarde, il a fait une mitzvah. Alors, c'est intéressant parce que, dans ce cas, on peut pas dire qu'il a pas fait de mitzvah, il a fait la mitzvah. Mais d'un autre côté, l'intérêt négatif qu'il a voulu récupérer de la mitzvah va former une sorte de pierre sur sa mitzvah qui l'empêche de décoller. Et ça, cette mitzvah, elle est bloquée. Alors on va voir après comment elle a fait décoller, mais ça c'est un cas quand même dans lequel il faut une teshuva. C'est-à-dire, ça veut dire ça, c'est pas un cas dans lequel il suffit de bouger un petit peu. Vous savez, quand vous avez un ballon, bon, le ballon, il a pas assez de puissance, quand tu pousses un petit peu, il décolle. Ça, c'est comme celui qui a fait une mitzvah avec, il a fait machinalement, on dit, bon, écoute, tu repousses un petit peu le ballon, il va redécoller. Mais celui qui a fait une mitzvah avec un intérêt négatif, un intérêt macabre, ça, c'est déjà problématique. Et celui-là, deux secondes, celui-là, sa mitzvah reste bloquée en bas. Alors, juste, rajouter quelques mots. Ukmo shekatu bezoar, je passe à la page 209, j'ai sauté la note. Ukmo shekatu bezoar, au milieu de la page 209. Ukmo shekatu bezoar, comme c'est écrit dans le zoar, al-pasuk, sur le verset, ma yitron le adam bechol amalo shiyamol tachat ha-shemesh. Le roi Salomon, dans Michelet, dans Kohelet, pardon, dans Ecclésiaste, il dit la chose suivante. Il dit, quel profit l'homme a-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? C'est une phrase très négative, ça. Quand tu dis à quelqu'un « Quel profit tu as de toute la peine que tu te donnes sous le soleil ?» en d'autres termes, ça veut dire que tu perds ton temps. Bah oui. Bah oui. Parce que sous le soleil, c'est une image. Ah oui. Ça veut dire quoi sous le soleil? Sous le soleil, c'est-à-dire dans ce monde. Donc quand le roi Salomon il te dit à quoi ça sert tout ce que tu te galères en bas, c'est comme s'il dit bah écoute, tu perds ton temps en bas.
Ou alors sinon, je peux réfléchir autrement aussi, je peux voir le côté d'une autre façon. À quoi ça sert que tu te galères comme tu te galères dans ce monde? Parce que tu n'auras rien dans le monde d'après.
Ah non, c'est d'accord, j'ai compris. Non, mais en tout cas, c'est grave ce qu'il dit ici. Pourtant, la Torah qui te dit de faire des mitzvot et qui te dit que ça va monter en haut. Alors comment le roi Salomon peut venir et dire le contraire? Comment il peut venir et dire à quoi ça sert tout le travail qu'un homme fait sous le soleil? Alors, regardez le chidouche de Morazaken. Il dit Da'afilu amala de'oraita, même la fatigue de la Torah, iavi bekanikare. C'est très simple, c'est dit le Morazaken. Il dit, tu sais pourquoi le roi Salomon dit à quoi sert, quel profit l'homme a-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? Ça veut dire quoi sous le soleil? Sous le soleil, ça veut dire quoi? Sous le soleil, ça veut dire de toute la peine qui se donne dans des mitzvot qui vont rester bloqués sous le soleil, qui vont pas décoller. Voilà ce qu'il veut dire. Quel profit l'homme va tirer de toute la peine sous le soleil? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de toutes les mitzvot que tu vas accomplir par intérêt macabre et qui vont forcer ces mitzvot à rester bloqués sous le soleil. D'ailleurs, il y a aussi un autre proverbe qui dit rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'il veut dire ce proverbe? Bien sûr qu'il y a du nouveau, on a fait des mitzvot. Oui, mais ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait du nouveau, il faut que ça décolle, il faut que ça aille au-dessus du soleil. C'est une image. Il faut que ça monte, mais pour que ça monte, il ne faut pas qu'il y ait un intérêt négatif. S'il y a un intérêt négatif, ça ne peut pas monter, Chas v'Shalom.
Mais ça nourrit son âme animale.
C'est ce qu'il voulait dire le roi Salomon.
Oui, attendez. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a toujours un intérêt.
Mais ça nourrit son âme animale, en tout cas.
Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a toujours un intérêt. Je pense qu'il faut être au niveau d'un grand sadique pour faire les choses sans intérêt, sans aucun intérêt. Dans tout ce qu'on fait, il y a un intérêt. Il faut dire la vérité. Dans tout ce qu'on fait, il y a un intérêt, même qui, un intérêt qui peut être. Mais c'est pas un intérêt macabre. C'est un intérêt, on va dire, qui est mignon. D'accord? C'est pas un intérêt macabre. C'est pas un intérêt manipulateur.
Mais celui qui a fait l'intérêt même manipulateur, prenons l'extrême,
oui.
Quelque part, quand on dit ça, ça a quand même nourri son âme animale.
Oui, alors justement, il a fait une mitzvah. On peut pas dire qu'il a pas fait une mitzvah. Mais lui, c'est un cas plus compliqué. On peut pas dire qu'il arrive en haut et on dit vas-y, Gan Eden, il s'est rien passé. Attends, il y a un problème là. Ça veut dire que c'est des mitzvot qui ont mal été accomplis. Il a mal utilisé les mitzvot.
Il les a détournés.
Ah bah oui, il les a détournés.
Tu sais que les potes dont tu parles, donc, ils restent.
Oui.
Ça influence pas aussi le fait que on les voit pas. Est-ce que ça nous gêne pas nous-mêmes de nous déplacer, d'avancer?
Non, ça nous gêne seulement dans la mesure où.
Parce qu'il y a beaucoup quand même.
Alors je vais vous dire, ça nous gênerait. Ça nous gênerait seulement dans la mesure où c'est des clipotes qui ont été générés par notre Gilgoul antérieur. Ben oui, parce que nous sommes tous issus de Gilgoulim. On est probablement chacun de nous issu d'un 20e ou d'un 30e ou d'un 50e Gilgoul. C'est-à-dire, ça fait probablement la 40e ou 50e fois qu'on est sur Terre.
Il y a un cumul de gènes.
Bien sûr qu'il y a un cumul. Il y a un cumul dans le positif et dans le négatif. Hein?
On dit qu'il y a.
Non, on peut le sur plusieurs fois.
Oui,
bien sûr.
D'accord. Ça ne me gêne pas, comme tu disais tout à l'heure, de remonter tous ces petits pions. Faut les remonter, ces petits pions-là.
Oui, mais ils remontent automatiquement. On ne se rend pas compte, mais ça nous entoure, ça. Ça nous entoure, on les remonte.
Alors, c'est 20 fois qu'on redouble, alors.
Non, c'est pas redoublé.
20 fois,
c'est pas redoublé.
C'est comme redoublé.
Bah non, c'est pas redoublé. C'est que. C'est que
tu remplaces le
glace. Non, c'est pas ça. C'est qu'imagine-toi, t'as un examen à passer. T'as un concours à passer. Bon, bah les meilleurs, ils passent en premier. Mais en général, le concours, on te laisse le faire pendant un an, deux ans, trois ans maximum. D'accord? Après, une fois que t'as fait trois ans, en général, dans les écoles sérieuses, au bout de deux ans, on te bloque, c'est fini. Je peux pas réussir. Là, on te dit, écoute, tu essaies autant de fois que tu veux. Est-ce que tu vas réussir? C'est pas mal.
C'est
pas mal. Oui, mais c'est un concours dans lequel tu finis toujours par passer. La question est quand, c'est tout. C'est pas mal. Oh, bah ça veut dire que la réussite est la seule issue possible.
L'idée qui repart de ce bas monde, c'est qu'il aurait déjà fini son travail.
Non. Ou bien que dans l'état actuel, il peut plus aller plus loin. Alors, où on décide qu'il a terminé.
En remplaçant.
Voilà. Ou on décide qu'il arrive en haut et que l'affaire est terminée, ou on décide, dit bon, toi t'es terminé en haut, toi t'es terminé en bas, tu remontes en haut, on va un autre.
Il y a un cateau qui arrive.
Bon, c'est pas si ça. Alors.
Tu peux t'inscrire quand tu veux.
Mais Zéou Shamrou, je passe à la page 210. Voilà pourquoi les Rahamim ont dit, je vous ai parlé de Gemara tout à l'heure, monsieur Kloster. Mais Zéou Shamrou.
Jacques,
hein.
Quand on parle de Gemara, c'est.
Alors, mais Zéou Shamrou, voilà pourquoi les Rahamim ont dit, Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado. La Gemara dans le traité Psachim, page 50a, nous dit la chose suivante. Elle nous dit, heureux est celui qui est venu au ciel avec son étude dans sa main. Comment vous comprenez ce texte? Alors nous, on comprend, ça veut dire quoi son étude dans sa main? Bah, ça veut dire qu'il a étudié beaucoup de Torah et qu'il vient avec ça, il a ça comme un bagage. Mais la Torah Zaki te dit non. Il faut comprendre cette phrase au sens littéral. Quand on te dit heureux est celui qui vient en haut avec son étude dans sa main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive en haut avec des mitzvot qui sont montées, qui ne sont pas restées en bas. Vous voyez, donc là, on a repris un dicton du roi Salomon, qui dit à quel profit le travail de l'homme sous le soleil, c'est-à-dire le travail qui reste bloqué sous le soleil, d'accord? Et on a repris un autre dicton de Talmudique, qui nous dit, heureux est celui qui est venu ici avec son étude dans sa main. Ça veut dire que voilà, c'est-à-dire celui qui a pu monter ici avec toute son étude. Et c'est la même chose. Vous savez, on dit pourquoi c'est important aujourd'hui d'étudier et de nous préparer à Mashiach. Quand on étudie la Chassidoute aujourd'hui, l'étude du Tania par exemple, d'accord? Bon. Combien on comprend en vérité? Combien on comprend? Bon. Le maître qui comprend un peu plus, les élèves comprennent un peu moins, et parmi les élèves, il y en a qui comprennent un peu plus, un peu moins, etc. Finalement, on comprend combien? On comprend pas des masses. Tu pourrais poser une question, tu pourrais dire, mais finalement, à quoi ça sert? Pourquoi n'étudie pas plutôt un texte qu'on maîtrise parfaitement? C'est vrai, pourquoi tu me parles de monde, de sphère, d'anges, etc. Bon, c'est bien, c'est mignon. Mais bon, c'est abstrait. Pourquoi tu parles pas plutôt de choses concrètes, qu'on maîtrise parfaitement, et qu'on peut parler, des choses cartésiennes, logiques, etc. C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. C'est que lorsque ma chère veut venir, tous les voiles qui nous ont empêchés d'accéder à la Torah, à la profondeur de la Torah, vont partir. Mais seulement là, il y aura une différence, écoutez bien. Ceux qui ont étudié la Chassidoute, ceux qui ont étudié le Zohar, ceux qui ont étudié la Kabbalah, ceux qui ont étudié la partie profonde de la Torah, sans forcément tout comprendre, mais ils ont des notions. Lorsque ma chère va venir et que les voiles vont s'enlever, ils vont tout comprendre tout de suite. Parce qu'ils ont déjà les clés en main. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient des mots sans vraiment comprendre ce que les mots voulaient dire, sans comprendre à 100%. Et lorsque ma chère arrive, on enlève le voile et là, les mots ont un sens. Mais lorsque tu es une personne, non, pas du tout, au contraire. 3 ans de Tania.
Attends. Tu as répété les cours, les 3 derniers cours, j'étais comme si tu venais de les redire. On est largué.
Ça veut dire quoi?
On est largué. Enfin, moi, je suis largué.
Tu crois que tu es largué? Tu captes des éléments.
Ton esprit a capté
des bribes. Tu vas capter les éléments, tu vas capter des notions, l'importance de la cabana.
Pratiquement sûr d'abord, pigé, machin et tout. Au final, quand tu sors, c'est comme si tu ne m'avais rien dit.
Exactement. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est comme ça?
Zéro.
Pourquoi? Et pourtant, ça fait beaucoup de bien à la Neshama. Et pourtant, notre comportement, il change. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'étude de la Chassidoute et de la Kabbalah. L'étude de la Chassidoute et de la Kabbalah, c'est une étude profonde, qui change une personne profondément, mais que l'homme n'est pas capable de maîtriser parfaitement. On peut comprendre, on peut peut-être même digérer, d'accord, ça veut dire carrément même ingérer cette étude, mais c'est une étude qu'on peut pas maîtriser parfaitement, parce que c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose que je suis capable de reproduire. D'accord? Alors, ça, pour être capable de maîtriser la Chassidoute et la Kabbalah, ça demande beaucoup de travail. Ça demande du temps et du passage. Bah, bien sûr, évidemment. Je parle de Tania, par exemple. Bah, je suis au moins à mon 30e passage. Donc évidemment, je peux pas vous dire que le premier passage j'ai compris. J'ai rien compris au premier passage. Pas rien compris, on comprend jamais rien, on comprend toujours quelque chose. Mais chaque fois qu'on passe, on comprend un peu plus. Mais c'est quoi le but? C'est très simple. Le but, c'est que lorsque ma chair va venir et que Dieu va ouvrir les voiles, là, automatiquement, ce qui va se passer, on aura, nous, notre étude dans notre main.
Et celui qui l'a pas.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, l'étude dans la main? Ça veut dire qu'on aura, on aura les éléments dans la main, et on pourra déjà comprendre. On n'aura pas besoin de tout reapprendre, parce qu'on pourra déjà comprendre quelque chose. Très important à comprendre ça. Une fois, le rabbi de Saint-Marcellec, pour illustrer ça, il a entendu ses élèves qui étaient à côté de son bureau, en train d'étudier la Torah. Et à un moment, le rabbi de Saint-Marcellec, il est de son bureau, il entend les élèves se poser la question, comment ça va se passer la venue de Mashiach? Comment ça va venir? Les élèves se posent la question. Comment il va venir? Comment? Bon. Après, les élèves me posent une deuxième question. Ils se disent, mais finalement, à quoi ça sert tout ce qu'on étudie? Et le rabbi de Saint-Marcellec qui sort soudainement de son bureau. Il leur dit, déjà pour votre première question, comment Mashiach va venir? Il va venir comme ça. Comme je suis sorti du bureau. Vous attendez pas que je sors, parce que c'est pas l'heure où je sors. Vous savez, c'est un rabbi, il a des horaires. Bon, en général, il sort à telle heure pour Mincha, pour Shacharit, pour etc. Mais là, il est sorti subitement. Il dit, Mashiach arrivera pitom. Il arrivera soudainement. C'est-à-dire qu'il peut venir tout de suite, là. Comme disent les Américains, out of the blue. Ça veut dire, il vient de nulle part. Tu l'attends pas. Mais, concernant la question qui se posait, il dit, mais, finalement, à quoi ça sert ce qu'on apprend? Il leur a dit, je vais expliquer la différence. Je vais expliquer à quoi ça sert. Il leur a dit, imaginez que vous êtes un peu curieux. Et que vous êtes dans une pièce. Et que vous entendez une conversation qui se passe dans la pièce d'à côté. Bon. Maintenant, vous cherchez pas à l'écouter. Mais,
comme on
le son entendu. Le son arrive, mais vous l'entendez pas bien.
Ah, et là tu peux transformer les choses.
Entendez un mot par-ci, un mot par-là, etc. Qui est couvert par du bruit, par des casseroles, par des... enfin, en tout cas, vous n'entendez pas bien. Mais vous avez entendu. Et vous avez, et donc vous avez,
une idée
et donc vous essayez avec votre cerveau de reconstituer ce qui s'est dit, involontairement. Si vous avez entendu un mot par-ci, un mot par-là, un mot par-ci. Donc vous dites, bon, peut-être qu'avec ce mot, ce mot, ce mot, on reconstitue que c'est ce qu'il voulait dire. D'accord. Maintenant, après coup, quelques heures plus tard, les protagonistes, ils viennent vous voir. Ils viennent vous raconter ce qui s'est passé derrière le mur. Et là, non, attendez. Ah. Et là, ils vont vous raconter, ils vont dire, voilà ce qui s'est passé. Ou bien, vous voyez la scène. Et là, il va avoir un « ah ». Il va dire « ah ». C'est quoi le « ah » ? C'est quoi le « ah » ? C'est du style, maintenant, je comprends tout de suite qu'est-ce que vous voulez dire ce mot, qu'est-ce que vous voulez dire ce mot, qu'est-ce que vous voulez dire ce mot. Maintenant, ce « ah », il ne peut arriver seulement si j'ai déjà entendu quelque chose avant. Si dès le départ, j'ai rien entendu, je ne me suis même pas cassé la tête. D'accord ? Et comment ? Je ne me suis pas cassé la tête, je suis dans mes affaires. À un moment, on ouvre le rideau, on montre ce qu'il y a. J'ai dit bon, oh, d'accord. Ça veut dire que j'ai découvert une scène directement, je l'ai découverte. Mais quand il y a eu cette démarche de recherche, d'essayer de comprendre, et qu'après il y a eu un ah, on ouvre le rideau, on dit voilà, c'est complètement autre chose. D'abord, c'est beaucoup plus rapide, et c'est une autre valeur. Tu dis ah, maintenant je comprends. Ben, si vous voulez, ce ah, vous l'aurez, Bezrat Hashem, très bientôt. Et on l'aura tous. C'est ça ce A. Ce A, c'est lorsque Mashiach va venir et que le rideau va s'ouvrir, et ben là, on aura ce A. On va dire, ah, c'est ce qu'il n'arrête pas de nous dire, Mendy, la matière, l'esprit, Atilut, Bria, Yetira, Asiya, le feu, les anges, qu'est-ce qu'on a donné comme notion encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais sortir encore? L'infini, on a eu pas mal de notions aujourd'hui, pas mal, ça, des notions sympathiques on a aujourd'hui.
Hein?
Yetira!
On est à quel niveau là? Quand on étudie quand?
Non, en bas, on est là, nous on est là. Mais voilà.
Quand ça monte.
Non, quand on étudie, déjà, il faut savoir que chaque chose qu'on étudie, notre neshama la comprend parfaitement. C'est pour ça que quand on sort d'un cours de chassidut, on se sent bien. On comprend pas pourquoi. Des fois, tu dis, mais c'est vrai, pourquoi je me sens bien? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi je me sens particulièrement bien quand je sors d'un cours de chassidut? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si ma tête n'a pas forcément tout compris, parce que bon, j'ai pas encore assez de passages, mais mon âme a parfaitement compris. Elle a compris tout, elle a tout compris, elle. Et comme elle a compris, elle a grave kiffé. Elle était dans les airs, elle a volé, elle était dans les sphères célestes. Donc c'est l'âme qui envoie un message au corps qui lui dit, écoute, t'as rien compris, mais moi je te dis c'était de la bombe. Et moi je te dis c'était vraiment, on s'est éclaté. Mais voilà, même des fois, combien de fois ça arrive des fois? La vérité, ça vous arrive pas des fois d'assister à une conférence, on vous dit un grand rat, il va parler, etc. Bon, vous venez, et vous écoutez le rat, il parle pendant, je sais pas, 2 heures, et bon, soit vous avez l'impression que c'est des paroles simplées qui sortent, tu vois, rien de particulier, ou des fois vous comprenez rien du tout. Mais rien. Alors vous essayez de, comme vous considérez d'être une personne qui est quand même intelligente, et une personne qui est quand même, voilà, donc vous essayez de comprendre quelque chose pour dire, il faut bien que je répète quelque chose, parce qu'on va me dire qu'est-ce que t'as appris, je sais pas quoi répéter. Mais à la limite, à la fin, vous comprenez rien du tout. Mais vous sentez une grande kidoucha. Bah, vous sentez bien. Pourquoi vous sentez bien? Ça, c'est pas de l'autosuggestion, ça. Ça, c'est parce que votre neshama, elle se sent bien. C'est exactement ce que dit Céline Morazaken. Morazaken, il dit comme ça. Il dit, Ashremi Shebaleka Metalmudo Biyado. Voilà ce que dit la Gemara. Heureux est celui qui vient en haut avec son étude dans sa main. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive en haut après 120 ans, tout ce qu'on a étudié en bas, on le réétudie. Mais en haut, on ne réétudie seulement ce qu'on a déjà étudié en bas.
Si on n'a rien étudié, on ne fait rien.
Ça veut dire que celui qui n'a pas étudié en bas, il n'a rien étudié en haut. Celui qui a étudié que de la Gemara en bas, eh ben en haut, il aura accès qu'à la Gemara. Celui qui a étudié que de la Halakha, en haut, il aura accès que de la Halakha. Celui qui a varié son étude, qui a eu un peu de Tanya, un peu de Chassidut, un peu de Kabbalah, un peu de Zohar, un peu de Midrashim, un peu de Gemara, un peu de Mishnah, un peu, etc. Lorsqu'il va arriver en haut, il a accès à toutes les portes. C'est pour ça que nos sages nous disent, c'est écrit dans une Hilchot Talmud Torah, il faut chercher à varier son étude.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'en haut, on peut te faire réétudier seulement ce que tu as dans la main. Vetalmudo, Beyado, ce que tu as dans la main. Ce que tu n'as pas dans la main, on dit, ah, bah, t'es en liste d'attente. Enfin, il faut redescendre. Il faut redescendre. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'en haut, on te fait rentrer que dans les endroits dans lesquels t'es déjà rentré.
Encore, on va redoubler. Hein?
Pourquoi tu vas redoubler? T'inquiète pas.
Mais ça veut dire que celui qui
est. T'inquiète pas, vous inquiétez pas.
Mais je pense.
Regarde, peut-être que ta neshama, elle était le guigou d'avant au Maroc. Un bon Marocain, qui est de quelle ville vous venez?
Cetat.
Hein? Voilà, donc peut-être que Neshama était un bon Marocain à Cetat, qui peut-être a étudié beaucoup de Gemara, d'accord, beaucoup d'Alaha, mais qui n'a pas étudié de Chassidut et qui n'a pas étudié de Kabbalah.
C'est un peu normal.
Peut-être, c'est un peu normal. Bon, c'était pas vraiment la Kabbalah au Maroc, c'était pour les grands Mekoubalim. Ouais. Les autres, touchez pas. Maintenant, voilà, la Neshama, elle est montée en haut, elle a dit, écoute, baba, il te manque la chassidut. Donc, elle est descendue en bas, elle a dit, on va t'envoyer Mendy Assouli, on va te faire un cours de Tania. Non, c'est tout.
Il a renouvelé.
Hein? Peut-être que M. Klosner, dans un ancien Gilgoul, il était de quel village vous...
À moins de Novesol, la ville d'Etsans.
Voilà. Bon, ah oui, ça, il y avait de la chassidut quand même.
Mais c'était un mistaged au départ.
Ah, c'était un mistaged. Bon, voilà. Voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret.
C'est pour ça que le rabbi d'Etsans, lui, le seul dans la chassidut, qui met des tefillines ashkenaz. C'est chassidim, il met de spar, mais pas le rabbi. L'amour, il met.
C'est ça, Vetalmudo Beyado. L'étude dans sa main. D'accord, pour aller dans la même direction. Mais Talmudo Beyado, l'étude dans sa main, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que l'étude, elle est dans ta main. Je vais expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, des fois, je peux étudier quelque chose, mais il y a moi et il y a l'étude. Et c'est deux choses différentes. Il y a un dicton en hébreu qui dit comme ça. Il dit, tu dis que tu as étudié le livre. La question n'est pas si toi tu as étudié le livre. La question est, qu'est-ce que le livre t'a appris? Vous comprenez, certains vont dire, oui, j'ai étudié. Oui, tu as étudié. Mais qu'est-ce que le livre t'a appris? T'en as tiré quoi? T'as changé ta vie, t'as changé ton comportement, t'as eu la kavana, t'as essayé de vivre ce que tu disais, t'as essayé. Et là, ça, voilà, par exemple, là, dans le cours de Tania, mon objectif, c'est quoi maintenant? Mon objectif, c'est qu'on essaye de mettre plus d'attention dans ce qu'on fait. Si j'ai réussi à faire ça, que vous rentrez chez vous, vous avez oublié tout le déroulement du cours, mais vous posez la question, il faut que je mette plus attention à ce que je fais, j'ai gagné. C'est ça le but. C'est ce qui est ici, le Morazaken. Et donc, encore une fois, la question n'est pas qu'est-ce que j'ai appris, mais plutôt qu'est-ce que ça m'a appris. Qu'est-ce que ça m'a appris? Une fois, il y a une personne qui est venue voir un Rav, un jeune homme, qui était un peu orgueilleux, et qui lui a dit, Rav, j'ai terminé d'étudier tout le chasse. Ben, c'est quand même considérable. Il a terminé d'étudier tout le chasse, c'est-à-dire tout le Talmud. Alors, vous savez ce qu'il a répondu son maître? Il lui a dit, qu'est-ce que le Talmud t'a appris? Toi, t'as appris le Talmud. Et qu'est-ce que le Talmud t'a appris? Maintenant, le Talmud, lui, il t'apprend des choses, mais il faut le laisser te parler. Toi, tu lui parles, mais il faut lui laisser lui aussi te parler. Quand, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours une communication. C'est les deux. C'est pour ça qu'on dit, Ashremi Sheba Lekam Talmud Obiedo. Heureux est celui qui est venu, qui vient en haut avec son étude dans sa main. Ça veut dire qu'il a fait une étude pour Dieu, et c'est pour ça que cette étude n'est pas restée bloquée en bas. Oui.
Une journée de labeur, on peut la classifier.
Oui.
On peut la quantifier, etc.
Oui.
Alors on sait ce qu'on a fait, on a passé le matin, on est venu le matin, on a été travailler.
Travail. Oui, d'accord. Etc. Bien sûr.
Donc tu sais ce que tu as fait. Mm-hmm. Une journée, bon, tu dis voilà, j'ai fait ça, je suis arrivé à mes objectifs. Dans l'étude, comment tu peux classifier ça?
C'est très difficile.
Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
C'est ça le problème. Mais et tu dis, bon, est-ce que j'ai vraiment bien
pris? Mais ça, c'est pas moi. Moi, je vais vous dire, ce problème, je le vois pas seulement dans le... Alors, c'est vrai que dans un cours de Tania, c'est vrai que dans un cours de Tania, qui est pourtant très structuré, mais dans un cours de Tania, c'est vrai que c'est plus difficile à voir le sentiment qu'on avance, d'accord? Mais sachez que dans toute étude, vous allez avoir ça. Moi, je vois les gens même dans les cours de Gemara. Vous voyez, les gens, ils me disent, mais j'ai pas l'impression que j'avance. Enfin, on tourne des pages, mais c'est vrai, parce que c'est très difficile. Parce que c'est pas des choses comme des cahiers que vous allez avoir à l'école, des cahiers de mathématiques ou de sciences, etc. Des choses que vous avancez. C'est-à-dire, vous voyez. Avant, je connaissais pas cette règle, maintenant, je connais cette règle. Donc, et après, avec cette règle, je construis la prochaine règle. Et je construis la prochaine. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque tu prends la fin du livre de physique, tu dis, bah oui, j'ai construit quelque chose, là. C'est-à-dire, au début, je connaissais rien, bah, j'ai construit. Mais quand tu arrives à la fin d'un livre de Torah, tu étudies un chapitre entier de Gemara. Après, tu dis, bon, mais qu'est-ce qui m'a appris ce chapitre? Hein, David, qu'est-ce que t'en penses? On a terminé un chapitre de Gemara. Mais qu'est-ce qui m'a appris sur
Gemara? C'est puissant. Quand tu connais le texte.
Bon, j'ai appris un métier. Je sais ce qui m'a appris le métier. Je comprends, j'ai appris un métier.
C'est puissant, mais dans la vie de tous les jours, aujourd'hui.
Voilà.
Pour savoir.
Mais c'est pas grave. C'est ça qu'on dit. C'est que la Torah n'est pas.
Très bon repère.
La Torah.
Pas tout. Je suis pas anti-Torah. Non, mais au contraire, je suis cartésien. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu vas dans ta boutique, ou moi je vais dans mon ordinateur.
Il y a, mais pas beaucoup. C'est très difficile à mesurer. C'est très difficile à mesurer l'impact d'une étude et l'impact d'une mitzvah. C'est comme la mitzvah. J'ai pris une peau de cuir, j'ai mis sur mon bras. Est-ce que moi je peux mesurer l'impact?
Non.
Mais incapable. J'ai pas les outils pour. J'ai pas les outils pour, ni pour mesurer l'impact d'une étude, ni pour mesurer l'impact d'une mitzvah. J'ai pas les outils pour. Je peux essayer de comprendre ce que je peux, mais je maîtrise rien du tout en réalité. Je maîtrise rien du tout. Mais néanmoins, ça vaut quand même le coup d'étudier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive après 120 ans, ou même lorsque Mashiach arrive, hein, le premier qui arrive en premier, ou Chever Kim Conference, le premier qui arrive, ou Mashiach, ou après 120 ans, dans les deux cas, on te repasse le film de ce que tu as fait en bas. Et ça, ce que tu n'as pas étudié, tu n'auras pas en haut. C'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de diversifier son étude. Diversifier son étude.
Pour savoir si on a bien intégré une étude d'une Gemara. Mm-hmm. Il y a une possibilité pour mesurer si on a bien intégré et si on peut retirer une application
possible. Oui, allez-y.
Il y a des évaluations.
Oui, mais attendez. C'est pas, ma question n'est pas est-ce que tu as compris ce que la Gemara a dit. Bien sûr qu'on peut comprendre. C'est des raisonnements. C'est comme ici, on peut comprendre. C'est du français. On peut traduire. C'est du français. Ma question n'est pas est-ce que tu as compris ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça t'a appris dans la vie de tous les jours?
C'est
très compliqué à répondre à cette question. Moi, je pense pas qu'on peut répondre à cette question de façon logique cartésienne.
Très difficile.
Je pense que la vraie réponse, c'est que ça reste spirituel. C'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. Très difficile. C'est très difficile, c'est vrai?
Déjà, c'est le concept, on l'a bien compris.
Je vous donne un exemple. Vous aurez pu ce soir rester chez vous à la maison. Ah, mais je vais faire l'avocat du diable. Vous aurez pu rester chez vous ce soir à la maison. Regardez, je sais pas, qu'est-ce qui passe ce soir? Il n'y a pas une enquête, un truc sympa?
Yvonne, oui.
Non, une enquête, un truc.
Il n'y a pas un top chef, là? Hein,
non, pas un top chef, pas des trucs sérieux. Un truc où tu apprends quelque chose.
Du lourd.
D'accord? Une enquête. D'accord? Une vraie enquête. Une enquête sur un sujet. Vous aurez pu, par exemple, rester chez vous à la maison et regarder une rediffusion, regarder quelque chose. Une vraie enquête sur un sujet. On prend un sujet, on le décortique. D'accord? Voilà. Bah, un sujet comme ça, tu le prends. Bah, à la fin de l'émission, tu as appris quelque chose. Ouais. Ouais. Je connaissais pas ça. Est-ce que je peux faire la même chose dans une étude? Pas toujours. Des fois oui, des fois non, mais pas toujours. Pas toujours. C'est pas si facile que ça. Parce qu'on touche à l'abstrait, on touche à l'infini.
Alors, il faut commencer par l'oral et après reprendre le
chouchanahour aussi.
Oui, mais ouais. D'accord. Une chouchanahour, c'est une étude technique. On te dit quoi faire, quoi pas faire.
Exactement.
Non, qu'est-ce que ça t'a appris à toi?
Ça
t'a appris quoi faire, pourquoi pas faire. Mais qu'est-ce que ça t'a appris à toi en tant que personne? Qu'est-ce que t'as changé dans ta vie? Mis à part l'action.
Bah, tu le faisais pas avant.
Dans ton psyché, dans ta personne, qu'est-ce que ça t'a changé?
C'est un cours qui est pas pour ton psyché. Il est un cours pour tes actions.
Très bien. Alors, donc ça veut dire que t'es en train de dire que la Torah n'est que pour l'action?
Non.
Parce que je suis en train.
Non. D'abord, la Torah, on.
Ah, voilà. Alors, comment la Torah agit sur mon psyché?
Mais comment? La finalité, c'est l'action.
Oui, mais voilà.
Avant l'action.
Ça, c'était le chapitre 35, 36, 37. Maintenant, on essaie de comprendre l'impact de ça. Ça va là, ce que dit le Zaken. Donc voilà, pour résumer aujourd'hui, voilà les deux choses que nous avons apprises. Parce que à chaque fois, même si on touche à l'abstrait, je veux quand même à chaque fois sortir quelque chose de concret. Pas croire que c'est une répétition. D'accord? Donc voilà ce que nous avons appris aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris plusieurs choses. D'abord, nous avons appris aujourd'hui que de chaque chose qu'on fait, on génère des anges. Chaque chose qui est autour de nous est composée obligatoirement de deux choses. Chomer, Tsoura. Matière, esprit. Même les anges. Sauf que, dans la matière et dans l'esprit, il y a des anges qui ont un esprit qui leur permet de décoller. Il y a d'autres anges qui ont un esprit qui leur permet de décoller, mais que, à cause de ma kavana négative que j'ai eue, ma kavana macabre que j'ai eue, je bloque l'ange. Je l'empêche de m'entendre. Est-ce que moi je le vois de mes yeux? Non, je le vois pas décoller puisque je le vois pas tout court. Donc on touche à l'infini, d'accord? On touche à ce que je peux pas voir. Mais c'est la réalité. Ça veut dire que l'ange ne peut pas décoller. Donc ça c'est une première chose qu'on a appris. Et ce qu'on a appris aussi dans le cours d'aujourd'hui, on a appris cette dernière idée qu'on vient de développer, c'est que lorsqu'on arrive en haut, on ne peut nous repasser, et même à ma chère, on ne peut nous repasser seulement ce qu'on a déjà étudié. Et là, tu le comprends différemment. Ce que tu n'as pas étudié, tu ne l'as pas étudié. Je vous dis sur la vérité, par exemple. Prenez un enfant, par exemple, je vous donne un exemple concret. Prenez un enfant, par exemple, qui est à l'âge de 6 ans ou de 7 ans, qui va être à l'école, au CP, et qui va étudier du roumage. On étudie le roumage à 7 ans. Vos enfants étudient peut-être à 7 ans ou à 8 ans, un peu plus, en tout cas, ils étudient. Bon. Ils le comprennent. Ils ont des contrôles, ils ont des interrogations, ils le comprennent. Oui. Maintenant, ce même roumage que j'étudiais quand j'avais 7 ans, aujourd'hui, je retudie le même paracha. Et j'étudie exactement le même rashi que j'étudiais lorsque j'avais 7 ans ou 8 ans. Et là, je me dis, mais je comprends pas ce que rashi dit. Pourtant, ce même rashi, je l'ai étudié. Regardez, j'ai fait le devoir tout à l'heure avec mes enfants. J'ai vu, on a fait un roumage, on a fait un rashi. Des parachutes, c'était pas simple. Ouais, pas pour aux questions. Il y avait un questionnaire avec des questions, des réponses. Je posais des questions, il a répondu. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire qu'il a compris? Il a compris. Et après, maintenant, quand tu grandis, tu repasses les mêmes questions. Mais tu le vois différemment.
Voilà.
C'est plus la même question, c'est plus une question technique. C'est après, plus tu avances, c'est plus. C'est différent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'enfant, il a démarré jeune, il a démarré comme au rassemblement de nos enfants, il a démarré à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc quand il repasse après la deuxième couche, la troisième couche, la quatrième couche, quand il arrive à 40 ans, 50 ans, il est déjà à la 30e couche. Donc quand il est à la 30e couche, donc il a déjà un bagage qui est beaucoup plus facile. Donc il arrive à imprégner beaucoup plus facilement. Donc quand après on lui ouvre les portes du ciel, quand après, ben il a déjà 30 couches derrière lui. Mais si dès le départ il y a rien, C'est-à-dire, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun effort. Ben, il arrive, il a la couche zéro. Et c'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut savoir apprécier cette chance. Et même, ben, bien sûr, je dis pas ça pour décourager ceux qui démarrent. Ceux qui démarrent, au contraire, doivent savoir que Dieu leur donne la force avec la teshuvah, de rattraper le temps perdu, etc. Mais d'un autre côté, il faut savoir apprécier la chance qu'on a quand on peut éduquer nos enfants, d'être dans la Torah, dans les mitzvot. Ça n'a pas de prix. Parce que nous, on croit qu'on est capable de rattraper le retard. On peut rattraper un certain retard, mais ça n'a aucune comparaison avec une personne qui a appris ça depuis qu'il est enfant. Parce qu'une personne qui a appris ça quand il était enfant, quand il arrive après un an, deux ans, trois ans plus tard, il a le A. Ah, c'est ce qu'il voulait dire. Oui, mais... Ah, le A, le A, le A. Et Mashiach arrivé, ça c'est extraordinaire. Donc voilà pourquoi on dit, Ashremi Shebalek Avetelmudo Biado, que lorsqu'on arrive en haut, on dit heureux est celui qui arrive avec son étude dans sa main. Ça veut dire que son étude n'est pas restée bloquée en bas. C'est-à-dire qu'il n'a pas étudié pour un intérêt négatif. Et ça veut dire que comme il a ses cartes en main, l'étude qu'il a étudiée, il a accès à toutes les sphères célestes, tous les cercles, hein, donc toutes les sphères célestes dans lesquelles on étudie la même Torah qu'il a étudiée en bas.
Notre Neshama a besoin de cette Torah, non ?
Bien sûr.
Une remarque, une observation. L'exemple que tu as donné avec l'enfant de 6 ans,
oui,
qui va étudier Rashi, etc.
Oui.
Je me rappelle de paroles qu'avait dit le Rav Katz. Il a dit que on ne peut apprendre à un individu les notions,
oui,
en utilisant le langage adéquat par rapport à son âge. Et plus on avancera, plus le langage va évoluer, plus la capacité de comprendre des choses complexes vont être beaucoup plus accessibles.
Mm-hmm.
Tu vois, ben on est là-dedans. Hein.
Oui, ça va dans la même direction. C'est-à-dire que
quelqu'un qui a 3, 4 ans, ou quoi, 5 ans, tu vas pas lui expliquer de la même manière avec des mots complexes.
Mais il faut quand même lui enseigner.
Et même conceptuellement, mais, il va pas.
Mais attendez, mais voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire, puisque c'est un enfant de 6 ans, et qu'un enfant de 6 ans, il a une conceptualisation qui est très limitée, pourquoi tu veux lui enseigner directement du Chumash qui est la Torah de Dieu qui est infinie? Attends qu'il a 15 ans. Attends qu'il a 15 ans, attends qu'il soit grand, qu'il soit en mesure de conceptualiser. Et là, tu l'envoies. Pourtant, c'est faux.
Non, faut qu'on...
Regardez, mon Pitras, il étudie déjà la Gemara. Pourquoi on prend la Tempa qui est le plus grand, etc. Parce que c'est très simple. C'est très simple parce qu'il faut commencer le plus jeune possible. Il faut commencer. Il faut pas attendre d'être de tout maîtriser pour comprendre. Parce qu'après, c'est déjà trop tard. Il faut commencer le plus jeune possible. Et c'est pour ça qu'il faut apprécier le fait qu'aujourd'hui, on ait des écoles juives dans lesquelles on peut étudier la Torah, qu'on peut commencer le plus jeune possible. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, nous, on a notre étude dans notre main. On a notre Tania dans notre main, et Bezrat Hashem avec Mashiach, on pourra tout comprendre beaucoup plus facilement. Voilà. Ça va être bon aujourd'hui. Allez.